l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres. Les activités ont tourné au ralenti dans le village de Kabouchoa et Kaungu en groupement d'Irambikatana et dans la cité de Kamanyola sur le deux axes. Les affrontements ont opposé le M23 au groupe Ouazalendo. Un accident s'est produit le week-end dernier dans un puits d'extraction d'or dans le carré IG7 à Lougouchou en territoire de Mwengam. À bilan, au moins 7 personnes sont mortes par asphyxie. La courbe de la maladie de diabète du type 2 est ascendant dans la ville de Bukavu. En 2000, les personnes touchées étaient estimées à plus ou moins 1,2%, mais en cette année 2025, le taux est de 14,5%. Ces chiffres sont contenus dans le rapport annuel de santé nutritionnelle du cabinet de consultance alimentaire IF Consult. Voilà tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Pour parler de Doha au Qatar, la délégation de l'AFC M23 est arrivée dans la capitale du Qatar le week-end dernier. Selon le journaliste congolais Steve Wembi, elle est conduite par l'un des secrétaires permanents en la personne de Benjamin Bonipa. Des informations en provenance de Doha signalent la présence des délégués de Kinshasa arrivée 48 heures avant celle de Goma. Le premier contact entre les deux délégations a eu lieu le dimanche dernier, fait savoir notre source. Un calme précaire règne depuis l'après-midi de lundi dans le village de Kabouchoa et Kaungu en groupement d'Irambikatana dans le territoire de Kabare. Ceci après des affrontements violents qui ont éclaté vers 8h de lundi 5 mai dans cette partie du Sud Kivu opposant les éléments Ouazalendo aux troupes de l'AFC M23 basées dans la zone. Ces affrontements ont provoqué une psychose au point que les élèves ont été obligés de rebrousser chemin. De même, les activités au centre commercial de Katana ont tourné au ralenti avant de reprendre timidement dans l'après-midi. Des sources sur place indiquent que ce sont les Ouazalendo qui auraient lancé l'assaut les premiers le matin. La veille, des messages avaient circulé demandant aux habitants de ne pas quitter chez eux ce lundi car les Ouazalendo allaient attaquer. Et dans la partie sud de la province, reprise timide des activités socio-économiques dans la cité de Kamanyola en territoire de Walungu ce lundi 5 mai pendant les heures d'après-midi après une panique due aux tirs entendus vers 10h. Selon les sources contactées, les détonations ont commencé vers le village voisin de Katogota en territoire de Uvira et de la partie sud-ouest de Kamanyola et ont vite perturbé les activités habituelles. Les mêmes sources indiquent qu'il s'agirait des Ouazalendo qui ont tenté d'attaquer les positions des éléments M23 de ce côté-là. Les habitants qui étaient dans leur champ sont vite rentrés. Les écoles qui commençaient déjà à reprendre les activités ont vite libéré les enfants. Les boutiques ont fermé, le trafic a momentanément été coupé. Il fallait attendre jusqu'à 14h ce lundi pour que les activités reprennent avec timidité. Et au moins 7 personnes sont mortes dans un accident de mine qui s'est produit dans un puits d'extraction d'or dans le carré DG7 à Lougouchoua dans le village de Mapale, groupement des Wabandeme, chefferie de Amouzim en territoire de Mwenga. L'accident s'est produit dans la soirée de samedi 3 mai 2025, indique le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Mwenga, Hilaire Isombia. Celui-ci ajoute que les 7 personnes mortes sont tous des hommes, dont 4 de la même famille. Ces dernières sont mortes par asphyxie dans ce puits d'or, précise Hilaire Isombia. Il regrette ce énième cas de décès dans pareilles circonstances, d'où l'appel au service attitré particulièrement le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, de bien faire son travail. Hilaire Isombia en parle.
Nous regrettons cet énième accident enregistré dans le secteur minier ce week-end. monde. Le bilan fait tant de autour de 7 morts. Et c'est pourquoi nous voulons donc encore rappeler aux services d'encadrement et d'assistance des quotas miniers artisanaux à petite échelle à bien jouer ses rôles en tant que service spécialisé en matière d'encadrement de ces derniers et de promouvoir le développement à partir de l'industrie minière artisanale. Nous ne pouvons que inviter encore les SAMAP à l'inspection des installations des sites miniers et doter ces exploitants des outils de protection, notamment des casques, de gants, des lunettes de sécurité, des bottes ainsi que des vêtements de protection. Et aussi faire des suivis quotidiennement des systèmes énergétiques qu'ils utilisent lorsqu'ils sont en train de faire l'exploitation des mines. Tout ça c'est pour essayer un peu de prévenir afin que nous ne puissions pas toujours courir derrière ces genres d'accidents.
Hilaire Isombia, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Mwenga. Et une centaine de familles vivent sans abri sur les avenues Rukumbuka et Funu, premier Nakiche, respectivement au quartier Kasali et Mosala, dans la commune de Kadutu. Ceci après l'incendie qui a consumé leur maison dans la mi-journée du dimanche 4 mai 2025. Radio Mandela s'est rendu sur place. Suivez ces reportages signés Alain Kabika.
Il est 9h15. Nous sommes sur avenue Rukumbuka 1er et Fununa Kiché. C'est précisément sur la colline, loin derrière la maison communale de Kadutu. Ici, hommes, femmes et enfants, tous au visage triste et désespéré, observent impuissamment les débris de leur maison partie en fumée. Milinga Nyongela Thomas indique que l'événement s'est déroulé lorsque la quasi-totalité des sinistrés était à l'église. Il regrette la mort d'un voisin qui voulait sauver quelques biens. On écoute son témoignage.
À 10h30,
le feu serait venu de cette maison là-bas autour de 10h30. Un de mes voisins est malheureusement décédé en voulant sauver quelques biens de sa maison. Nous n'avions rien sauvé, que les personnes de bonne volonté nous viennent en aide comme elles font chez les autres.
En plus des biens dont déménage, quelques petits commerçants ont également été victimes. C'est le cas de Jean-Luc Mihigo, propriétaire d'une petite boutique sur place. Ses habits, sa maison et ses articles appartiennent désormais au passé. Il appelle les personnes de bonne volonté à leur venir en aide.
Que les personnes de bonne volonté nous assistent même avec des bâches, gobelets, assiettes, planches, même la nourriture. Même un petit message de compassion suffit. L'effet est venu de chez nos voisins. Je reste sans abri. Je n'ai rien sauvé, mais je remercie le Seigneur pour les souffles de vie.
Au lieu de contribuer à éteindre le feu ou sauver quelques biens, certains jeunes ont trouvé en cet accident une occasion pour voler les feux que certaines familles ont pu mettre à l'abri, déplore pour sa part Furaha Hassani, une mère de famille également sinistrée.
De jeunes ont volé quelques biens que nous avions déjà sauvés. Que des personnes de bonne volonté nous viennent en aide.
Jusqu'à présent, même les sinistrés semblent ne pas connaître l'origine de cet incendie. Précisons par ailleurs que sur le terrain, certains sinistrés ont déjà commencé à reconstituer les limites de leurs parcelles en vue d'une probable reconstruction. Déjà, des petits enfants à la recherche des débris des métals dits mitrailles dans le jargon local font les tours de la zone sinistrée pour collectionner les restes des tôles et autres métaux.
Mmh. Reportage signé Alain Kabika. Et au Nord Kivu, le séisme qui a été ressenti dans la ville de Goma dans la nuit du dimanche à lundi était d'origine tectonique et non volcanique. Il résulte du mouvement des plaques terrestres dans la zone du rift africain à partir du lac Edouard jusqu'au lac Tanganyika et ne représente pas un signe d'activité du volcan Nyiragongo. Cette précision est du professeur Georges Mavonga, directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG. Il précise que ce tremblement des terres était d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter. Georges Mavonga rassure la population et fait savoir que les équipes de surveillance continuent d'observer la situation pour anticiper d'éventuelles répliques. Il en parle au micro de Paulin Gazé, notre correspondant à Goma.
C'est un tremblement des terres qui a eu lieu dans le fossé d'effondrement de la partie ouest du rift. Rift, donc, c'est une zone où il y a plusieurs cassures. Alors, ce tremblement de terre-là a eu lieu au sud du lac Edouard. C'est dans le fossé-là qui part du lac Albert et ça passe par le lac Edouard. Ensuite, ça descend vers le lac Kivu, vers le lac Tanganyika, ainsi de suite, dans la partie occidentale. Et de l'autre côté, après le sud de l'Éthiopie, ça part une autre branche qui part vers le Kenya et ça va aussi vers le Malawi, où ça fait jonction avec le lac Tanganyika. Mmh. Donc ça a été ressenti partout, surtout de ce côté-là, Beni, Butembo, puis Goma, et puis même Masisi.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Nous changeons de chapitre à présent. La ville de Bukavu, au sud qui vous connaît depuis bientôt 20 ans, une augmentation inquiétante du diabète de type 2, alors qu'en 2000, les personnes touchées étaient estimées à plus ou moins 1,2%. Cette année 2025, le taux est de 14,5%. Ces chiffres sont contenus dans le rapport annuel de santé nutritionnelle du cabinet de consultance alimentaire IF Consult est consulté donc par Radio Maendeleo lundi 5 mai 2025. Continue avec Mapendo Linda.
Dans cette publication, les cabinets IF Consult attribuent cette hausse des cas de diabète de type 2 au changement brusque des habitudes alimentaires. Il s'agit en clair d'une forte consommation des graisses, des sucres et d'aliments ultra transformés, souvent importés et pas suffisamment régulés, lit-on dans ces rapports. Il ressort des analyses faites que, si aucune mesure n'est prise, il est possible que d'ici 2 ans, soit en 2027, la ville de Bukavu arrive à 15,7% de sa population atteinte du diabète, soit un habitant sur 6. Colosse Luhiriri, coordonnateur du cabinet IF Consult, recommande la promotion de produits alimentaires locaux, sains et non transformés, la réglementation des produits à risque et des dépistages précoces et accessibles. On l'écoute.
Depuis des décennies, la ville de Bukavu connaît une augmentation inquiétante du taux de diabète de type D. Les apports industriels dans le cadre de l'alimentation constituent un facteur vraiment majeur qui pousse carrément la population à modifier leur système alimentaire, leur habitude alimentaire, et qui conduit directement à la perturbation du métabolisme qui conduit à la résistance de l'insuline qui peut toutefois pousser au développement des maladies de diabète. Et actuellement dans la ville de Bukavu, vous allez comprendre que plusieurs personnes constituent carrément les lits de développer le diabète type D. Dans ce sens-là, nous faisons tout simplement appel à la population de pouvoir se prévenir. Au gouvernement, c'est la mise en place de programmes de cuisine thérapeutique communautaire. Déjà ici, on peut combiner carrément la promotion des cabinets de prévention que nous sommes.
Il propose également l'introduction d'immanuels nutritionnels dans des écoles, familles et universités, ainsi qu'une mobilisation des leaders communautaires et religieux pour plus d'impact. Précisons que ce rapport a été rédigé et publié dans le cadre du programme Rehoboth Health au sein du cabinet IF Consult.
Nous parlons toujours santé, le déplacement non contrôlé entre les zones touchées par le choléra et les autres parties de la province du Sud-Kivu constitue un risque majeur de propagation de cette épidémie dans plusieurs zones en province et à Bukavu en particulier. Dans plusieurs alertes parvenues à Radio Mandeléo, il ressort que des véhicules, motos et pirogues transportent des passagers des zones affectées vers des zones encore indemnes sans aucune mesure de contrôle. Qu'en est-il au maire Moudekérez?
Il s'agit particulièrement des dizaines de personnes déjà malades qui quittent les sites miniers de Lomera, en groupement de Luhihi, dans le territoire de Kabare, pour se faire soigner à Bukavu ou ailleurs. Cette circulation des personnes et des biens peut avoir des conséquences si rien n'est fait dans l'urgence, car sans aucune barrière sanitaire, la maladie peut facilement s'y transmettre, estime des prestataires des soins qui ont joint votre radio, tant que des gens continueront de voyager librement. La chaîne de contamination restera ouverte et les conséquences peuvent être graves, notamment dans les quartiers où les conditions d'hygiène sont déjà précaires et où l'accès à l'eau potable reste limité, estiment pour leur part les acteurs de la société civile. Hippocrate Maroumé, point focal provincial du mouvement citoyen La Sentinelle du Peuple, souligne la nécessité de renforcer les mesures de protection à chaque point d'entrée. C'est par exemple l'installation de points de lavage des mains dans les installations portuaires et aux endroits de passage, la désinfection des moyens de transport et surtout des sensibilisations destinées à alerter les voyageurs sur les risques auxquels ils sont exposés. Hippocrate Maroumé.
Face à la prolifération des maladies des mains sales dans la province du Sud Kivu, surtout dans les carrières minières, nous demandons aux nouvelles autorités de renforcer les mesures sanitaires dans les installations portuaires au niveau du Bichimwanzi, dans toutes les entrées de la ville de Bukavu. Ça, c'est le premier aspect. En y installant le lavage de mains, des désinfectants ici et là pour limiter aussi la prolifération de cette maladie. Nous demandons aussi que le bus, les motos qui proviennent soit de Luhihi, qui proviennent des zones où il y a déjà la maladie, de pouvoir les désinfecter à l'entrée de la ville de Bukavu comme à Kazingo. Cela peut permettre à pouvoir limiter la prolifération de cette maladie.
Précisons que des cas de choléra ont été confirmés à Kabare, dans sa partie littorale, surtout dans les groupements de Luhihi et dans la ville de Bukavu. Des cas ont même été rapportés dans le village de Kajuchu, dans le groupement d'Irambi-Katana, toujours en territoire de Kabare.
Entre-temps, des cas de choléra continuent d'être rapportés dans la ville de Bukavu. Toute la semaine dernière, le centre de traitement de choléra installé au centre hospitalier Saint-Mathieu, situé à l'essence major Vangou, en commune d'Ibanda. Des sources concordantes rapportent plusieurs cas de décès également y enregistrés. Plusieurs cas sont ceux importés en provenance du carré minier Lomera, dans le groupement de Luhihi, en territoire de Kabare. Les mêmes sources indiquent que certains malades en provenance des zones affectées choisissent de passer dans des familles avant de se rendre à l'hôpital pour le traitement, ce qui peut être facteur majeur de propagation. Déjà, quelques cas ont été enregistrés en provenance de Kadutu, un autre en provenance d'Igoki dans le territoire de Kabare et un autre d'adolescence en commune d'Ibanda, poursuit une source médicale au sein de la zone de santé. Il faut néanmoins noter que plusieurs personnes ont également été guéries de cette maladie et autorisées à sortir de l'hôpital. La précision que le centre de traitement installé au centre hospitalier Saint-Mathieu est celui qui était à l'hôpital provincial général d'enfance de Bukavu, mais qui a été délocalisé pour donner de la place aux blessés de guerre qui arrivent en grand nombre depuis l'intensification des combats en province. Et les sages-femmes de la province du Sud-Kivu rencontrent d'énormes difficultés qui ne leur permettent pas d'exercer normalement en cette période. C'est notamment le manque d'intrants à utiliser au service de la maternité dans différents hôpitaux, mais également l'insécurité qui ne leur permet pas d'atteindre certaines structures sanitaires pour aider les femmes en besoin. Les sages-femmes l'ont fait savoir à Radio Mandeléo à l'occasion de la journée mondiale de la pratique de sages-femmes célébrée le 5 mai de chaque année. Détail Hélène Boutiriri.
À en croire la secrétaire provinciale de l'Ordre des sages-femmes, Francine Bagalois Boulonza, la situation que traversent les sages-femmes en Provence ne favorise pas la réalisation de leurs objectifs centrés sur l'élimination des décès maternels et les besoins non satisfaits en planification familiale. Bien au-delà, plusieurs structures sanitaires ont été pillées et les services des maternités saccagés, ce qui a conduit à leur fermeture avec pour conséquence directe le chômage des sages-femmes. Francine Bagalois demande aux autorités en place place de tout mettre en œuvre pour sécuriser la province et permettre l'acheminement des entrants et favoriser les retours des différentes organisations qui appuyaient les structures sanitaires.
Actuellement, nous travaillons dans le contexte de crise humanitaire. Nous sollicitons premièrement l'implication des autorités politico-administratives pour garantir la protection de la population en général et d'une manière particulière la sécurité et la protection des sages-femmes. Ces derniers temps, nous faisons face à beaucoup de défis. L'inaccessibilité des sages-femmes dans les structures sanitaires, il y a aussi le problème des intrants, il y a des moments que les sages-femmes manquent les intrants pour aider les mamans à une bonne prise en charge. Le message que nous pouvons placer, c'est d'encourager les sages-femmes. Nous avons choisi un métier de sauver les vies des gens et nous devons nous mettre au travail malgré la crise humanitaire.
Notre source ajoute que cette journée n'a pas été célébrée au Sud Kivu, non seulement par manque de moyens, mais aussi parce qu'il a été difficile de réunir toutes les sages-femmes de la province, car certains vivent dans des milieux où les affrontements sont signalés. Néanmoins, les thèmes choisis pour cette année au niveau national est « sages-femmes indispensables dans chaque crise ».
Et les habitants de Bukavu en général et ceux du quartier Nendere en particulier sont appelés à appliquer régulièrement les règles d'hygiène pour prévenir certaines maladies telles que le choléra et d'autres liées à un environnement malsain. Cette recommandation ressort d'une rencontre qui a réuni lundi 5 mai les chefs d'avenue, les sages, les représentants des comités locaux de développement, les représentants des jeunes, des femmes ainsi que des religieux vivant au quartier d'Endéré. En croire le chef du dit quartier, le pasteur Albert Miga Bonyagazam, il s'est agi d'alerter et sensibiliser sur la nécessité d'observer les mesures visant à prévenir et se protéger contre les maladies qui peuvent se développer suite à un environnement insalubre. Pour lui, il est nécessaire pour les habitants de privilégier des petits gestes qui aident à prévenir des maladies que d'aller se faire soigner dans des hôpitaux juste pour avoir négliger certains aspects d'hygiène, d'où l'appel à plus de responsabilités au sein des ménages. Albert Migabo Nyagaza.
Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. C'est dans ce cadre que nous avons tenu une rencontre des leaders d'influence communautaire de notre quartier pour sensibiliser la population à promouvoir les mesures de base d'assainissement péri et intradomiciliaire, individuel, familial et communautaire visant la prévention systématique et permanente des maladies. L'ensemble des petites actions faisables et importantes menées autour et dans nos maisons ainsi que dans les parcelles peuvent prévenir certaines pathologies. Le lavage correct des mains, l'entretien permanent des latrines, l'évacuation des flaques d'eau dans nos enclos, le débouchage des rigoles, caniveaux, les égouts bouchés autour de nos maisons et de nos parcelles. L'utilisation des moustiquaires ne nous coûte pas cher, plus que la prise en charge médicale dans nos structures sanitaires. Nous avons le devoir de nous protéger autant que nous le pouvons avec des petites actions ou mesures faisables et importantes.
Par ici prend fin ce radio journal. Anissé Akonkwa a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. Passez des beaux moments en compagnie de Radio Mendeléo.